Alors, je vais commencer cette étude, je vais vous partager ce que j'ai pu, que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'ai pris des notes pour essayer de rester concise, parce que comme je disais avant, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais bon, premièrement, il y a des études, il y a des chercheurs qui ont pour sujet les solitudes en France. Et la Fondation de France a publié le résultat de l'une d'entre elles. Ils font ça tous les ans. Mais celle de 2024 montrait que 12% des Français se trouvent en situation d'isolement relationnel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de canal pour sociabiliser. Plus de 8 personnes seules sur 10 souffrent de solitude. L'étude ne dit pas quel est le pourcentage de chrétiens dedans, mais les chiffres sont ce qu'ils sont. Et d'autre part, plusieurs études montrent aussi que statistiquement, les effets positifs sur le bien-être individuel et collectif de comportements comme l'altruisme, l'empathie, la coopération et la compassion font de choses bien pour l'être humain, à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Donc, je vais juste vous donner quelques données que j'ai récupérées. Donc, Sonia Lyubomorsky, pardon pour son nom, en 2005 a montré dans son étude que des actes de gentillesse réguliers augmentent significativement le bien-être personnel. Une autre étude de Barbara Fredrickson en 2008 montre que les émotions positives comme l'entraide et la compassion élargissent nos capacités cognitives, donc notre cerveau, comment il fonctionne en gros, et nos capacités sociales à long terme. Une autre étude de Robert Putman en 2000 a montré que les communautés avec le plus de capacités de capital social, comme l'entraide, la confiance, la compassion, la coopération, ces communautés-là sont plus sûres, plus saines, plus démocratiques. Donc, tout ça pour dire, il y a beaucoup de solitude, et en même temps, on voit que quand il y a de l'entraide, quand il y a de l'amour les uns pour les autres, ça fait du bien à l'être, que ce soit l'être humain individuel ou le collectif. Pour ça, il y a un passage en psaume 68, verset 6, qui dit « Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. » Tout ceci pour m'emmener au sujet dont le titre pourrait être « De qui suis-je le prochain ?» Donc, nous avons un Dieu social. Il est social au travers de la vie et de l'amour qui circulent entre les trois personnes de la Trinité. Il nous a créés à son image et il nous appelle à plusieurs reprises dans la parole, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau. Il nous appelle à regarder vers lui et il nous montre combien il aime voir sa vie et son amour circuler librement entre les hommes. Quand on regarde dans Exode 20, Exode 20, chapitre 1 à 17. Je ne vais pas le lire en entier, mais globalement, on voit qu'il y a deux parties dans les commandements, dans les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. Il y a une première partie qui concerne Dieu, aimer Dieu, ne pas aimer d'autres idoles. Et la deuxième partie qui concerne notre rapport à notre prochain. C'est au chapitre 20. Oui, donc Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tous ces versets-là parlent de notre rapport à notre prochain. En Marc 12, versets 28 à 31, il est dit, c'est le passage dans lequel Jésus est interrogé. Un spécialiste de la loi qui s'approche de lui et demande à Dieu, quel est le commandement le plus important de tous ? Et Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Donc, dans ce passage, Jésus rappelle ce qu'on a vu déjà dans Exode, c'est-à-dire que l'essentiel de la loi consiste en se dire aimer Dieu et aimer son prochain. En Luc 10, 25, on a un autre épisode où Jésus doit répondre à des pharisiens, des docteurs de la loi. Donc, Luc 10, verset 25 à 37. Donc, Luc 10, verset 25 à 37. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain ? Et donc ensuite, c'est la parabole où Jésus raconte. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?»« C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Donc ça, c'est le passage principal de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a saisi dans cette parabole, c'est de me dire que il y a eu un prêtre, un sacrificateur qui est passé. Il y a eu un lévite qui est passé. Tous les deux, dans leur fonction, sont en quelque sorte des ministres de la loi. Ils connaissaient la loi. Ils connaissaient les 10 commandements qu'on a lus avant. Ils savaient ce que Dieu voulait pour les uns et les autres. Ils ont vu un homme. Ils ne se sont pas passés et par hasard, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas fait attention. Ils sont passés, ils ont vu l'homme et ils se sont dit « on continue notre chemin ». Donc ce sont des ministres attitrés au service de Dieu et pourtant ils ont vu le besoin, mais ils sont passés outre. Alors, la Bible ne donne pas de détails, mais si on les interrogeait, comme le docteur de la loi qu'on a vu dans le passage de Luc 10, certainement ils se justifieraient en expliquant que peut-être, de par leur position dans la société juive, c'est quand même des prêtres, c'est quand même des lévites, peut-être que ce n'est pas à eux de porter secours à ce malheureux, peut-être. C'est pas digne d'eux, peut-être. C'est pas à eux, voilà, de le faire. Peut-être aussi qu'ils avaient des occupations plus urgentes, plus importantes. Ce sont des prêtres, ils ont peut-être un agenda chargé, sait-on jamais. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui est plus important que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain? Tout prêtre, tout sacrificateur qui puisse être. Il pourrait aussi dire, peut-être qu'ils avaient une image ou une idée prédéfinie de qui serait leur prochain. Et peut-être que le malheureux qui est là dans le fossé ne coche pas les cases de ce qu'ils avaient en tête comme mon prochain peut être ci ou ça, en fait. Dans Proverbe 14, 21, il est dit que qui méprise son prochain pêche, mais bienheureux celui qui use de grâce envers les malheureux. Donc quand le docteur de la loi de Luc 10 pose la question « Qui est mon prochain ?» La manière dont la question est posée nous emmène à, ou peut-être il voulait emmener Jésus à définir qui est le prochain. Peut-être il vient de telle région, il est de telle tribu, il est de telle catégorie sociale, il a tel statut, je sais pas. Mais la manière dont c'est posé, c'est ce qui viendrait comme réponse. Et quand Jésus lui demande « De qui es-tu le prochain ?» Le focus là est plutôt sur le cœur de celui qui pose la question. Est-ce que son cœur est ouvert, est disponible et à l'écoute? Est-ce qu'il a un cœur bienveillant à l'avantage de ceux qui ont croisé son chemin? Donc, de qui es-tu le prochain? De qui suis-je le prochain? Et la question s'adresse aussi à nous, aujourd'hui. La question s'adresse à nous. Est-ce qu'on va se justifier en invoquant notre confort, nos préjugés, la manière dont on voit les choses et les gens, pour choisir envers qui on va exercer la compassion, pour choisir envers qui on va exercer l'amour, justement, du prochain? Ou est-ce qu'on va obéir à la loi de l'amour et aimer le prochain que Dieu a mis devant nous? Aimer le prochain que Dieu a mis devant nous. Je pensais à ça et je me disais, on peut savoir beaucoup de choses, même quand on est bien enseigné, on peut avoir la théorie en tête. Et l'un des pièges dans lequel on peut tomber, c'est quelque chose de similaire à l'effet de témoin. Je ne sais pas si ici vous savez ce que c'est, l'effet de témoin ou l'effet de spectateur. C'est un peu, pour le simplifier, quand une personne exprime un besoin, quand on voit qu'il y a une situation d'urgence, s'il y a beaucoup de personnes autour de la personne concernée, elle a moins de chances pour que des gens l'aident. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup de gens. On a pu voir peut-être ça ou entendu parler de ça dans le métro, quelqu'un se fait embêter ou voilà. Et il y a plein de gens et l'idée, c'est toujours après, a posteriori. Mais pourquoi tout le monde n'a pas fait quelque chose? Alors que si la personne interpelle une personne en particulier, Ingrid, Edwige, Karina, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle a plus de chances d'être aidée. C'est parce que à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe où la responsabilité n'est pas sur nous quand on est en groupe et qu'on a identifié personne. C'est pas ma responsabilité, quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est pas forcément une décision qu'on prend consciemment, on décide pas vraiment de le faire parfois, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc si chacun se dit « De qui suis-je le prochain ? Quand une situation va arriver, on va se porter volontaire sans pour autant se demander « Mais est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas le faire ?» Non, ce n'est pas à moi, c'est à d'autres personnes de le faire. Mais si je me dis « De qui suis-je le prochain ?» je vais moi intervenir. Christ n'a pas regardé à notre CV personnel, il n'a pas regardé à notre situation sociale, à notre ethnie, à nos origines, notre naissance, peu importe. Il est venu et il nous a aimés et il est venu mourir sur la croix pour nous. Et à l'époque où il est arrivé, il était méprisé par les pharisiens, par les docteurs de la loi, les religieux de manière générale. Il était méprisé, comme ce Samaritain là aussi, vis-à-vis des Hébreux de bonne facture, si on pourrait dire. Lui aussi aurait pu être méprisé, c'est un Samaritain. Mais lui, comme Jésus aussi, il s'est donné. Donc Jésus est venu, il s'est approché du peuple. Dans plusieurs passages, on voit qu'il a aimé le peuple, qu'il a guéri les malades, qu'il a affermi ce qui devait l'être dans leur foi, et il s'est donné pour tous. Et tous ici et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de sa grâce et de sa miséricorde. Donc Dieu a vu le besoin dans le cœur de l'homme. Dans Jean 3,16, il est écrit « Il a tant aimé le monde ». Il n'est pas écrit « Il a tant aimé les Hébreux ». « Il a tant aimé Israël ». Non, ce n'est pas écrit. Il n'est pas dit non plus « Il a tant aimé ceux qui se présentent bien sur eux » ou « Il a tant aimé ceux qui sont honorables ». Non, il est écrit « Il a tant aimé le monde ». Le monde tel qu'il était, il a tant aimé. Le sacrificateur et le lévite ont vu le malheureux, mais leur cœur était dans l'aveuglement. Il est écrit à chaque fois, ils ont vu et ils sont passés. Donc leur cœur était dans l'aveuglement. De même, le pharisien en Luc 7, 39... c'est le passage où il y a un pharisien qui invite Jésus pour manger chez lui. Donc Jésus rentre et il y a une femme pécheresse qui rentre et qui pleure et qui essuie ses larmes sur les pieds de Jésus. Et il est dit en Luc 7, 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui ?» et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il reconnaîtrait que c'est une pécheresse. Donc lui n'a pas vu le besoin, il a vu ce qu'on dit de cette femme. Elle est pécheresse, il n'a vu que la pécheresse en elle. Et il n'a pas vu la femme qui est dans le besoin, et qui vient vers Jésus et qui épanche son cœur. Celui qui est conscient qu'il ne mérite rien et qu'il a tout reçu de Dieu, va aussi se donner avec générosité. Aimer son prochain, c'est demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, de nous montrer le besoin et d'agir concrètement par une prière, par un geste, par un appel, par un message, peu importe. Mais d'agir concrètement pour aller vers l'autre, même s'il est différent de nous. Et en allant vers l'autre, qui sait si c'est pas Dieu qui nous ouvre une porte pour appeler quelqu'un à lui, pour toucher quelqu'un. Donc on va voir quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont exercé l'amour du prochain. Et c'est des exemples que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois. Et il y en a beaucoup, mais je vais prendre trois grands exemples. On a l'exemple de la veuve de Sarepta, qui a fait rentrer, qui a nourri, on va dire, Élie, et qui est rentrée, je l'ai reçue comme ça, elle est rentrée dans les œuvres préparées d'avance. C'est en 1 roi 17, versets 8 à 16. Et il est dit, c'est Dieu qui parle à Élie et qui dit, « J'y ai ordonné une veuve pour te nourrir. » Donc Élie est dans un peu le tourbillon de sa déprime. Et Dieu lui dit, « Lève-toi, va à Sarepta, tu vas voir une veuve là-bas. J'y ai ordonné une veuve pour te nourrir. » Et je l'ai vu comme un exemple des œuvres préparées d'avance par Dieu, à la fois pour Élie, parce que Dieu a prévu qu'une veuve allait le nourrir, et à la fois pour la veuve, parce que Dieu a prévu qu'Élie allait faire un miracle pour lui donner à manger, à elle et sa famille. Et d'ailleurs, donner à manger à elle, mais aussi, plus tard, sauver son fils qui va être ressuscité. Donc cette femme, elle est au bord de la mort. Il est dit dans le passage qu'elle est vraiment au bord de la mort. Mais quand Élie lui dit « Va me chercher de l'eau », elle va chercher de l'eau. Elle ne le connaît pas. C'est pas, elle n'est pas de sa famille, elle ne sait pas d'où il vient. Mais Dieu a préparé ça et s'est rendu disponible. Et elle est allée dans la famine, dans la souffrance dans laquelle elle était. Elle est allée chercher de l'eau pour un inconnu. Et quand Élie lui dit, quand elle explique à Élie qu'elle n'a qu'une poignée de farine et qu'il lui dit « va et fais-moi un gâteau », elle ne sait pas en fait comment les choses allaient se passer. Elle n'avait qu'une poignée de farine, un peu d'huile, et elle a prévu que c'était pour elle et ses enfants, de son enfant, et qu'après il mourrait. Et malgré ça, il lui dit « Ok, vas-y, mais fais-moi d'abord un gâteau. » J'ai lu ça et je me suis dit, mais comment ça? Elle a une poignée de farine. Elle parle déjà que c'est pas assez pour elle et son fils, mais lui lui dit, va et fais un gâteau. Elle savait pas comment ça allait se passer, mais elle est quand même allée. Elle a pris ce qu'elle avait et elle a fait ce que le prophète lui a demandé. Et Dieu l'a bénie au travers d'Élie. Et donc, la disponibilité de cette veuve a été source de grandes bénédictions pour Élie, pour elle-même et pour son fils. D'abord parce qu'ils vont avoir à manger pour cette fois et pour les suivantes, mais aussi quand son fils va mourir, Élie va le ressusciter. Le deuxième exemple, c'est la femme de Sunem. En 2 Rois 4, versets 8 à 37. La femme de Sunem qui a exercé l'hospitalité envers Élisée. A contrario de la veuve de Sarepta, cette femme, donc la Sunamite, c'était une femme de distinction, c'était une femme importante dans la ville. Et c'est aussi une femme qui avait des moyens parce que elle a vu Élisée venir souvent dans la ville. Elle le pressait pour qu'il vienne chez elle, qu'il vienne manger. Et elle a décidé avec son mari, ils ont décidé, de construire une chambre haute pour lui. Une chambre avec des murs, une chambre meublée. Il y avait une table, une lampe, enfin un lit. Tout était prévu simplement pour lui. Et il n'est pas dit dans les Écritures qu'elle a demandé quelque chose en retour à Élie. Simplement, elle a vu le besoin d'un prophète qui voyageait et elle s'est dit « je vais me porter volontaire pour lui donner un lieu où se reposer ». Le résultat de tout ça, parce qu'elle a aimé son prochain en la personne d'Élie, par son hospitalité, elle a été au bénéfice de deux miracles. Elle a eu la naissance d'un enfant, un enfant qu'elle n'espérait plus, parce que quand Élisée lui dit qu'elle va avoir un enfant, au départ, elle lui dit « non, ne me trompe pas, ne me mens pas, en fait, comme si elle attendait depuis longtemps, donc ne viens pas avec une nouvelle promesse qui ne va pas se réaliser. » Et pourtant, Dieu a été fidèle et lui a donné un enfant au moment où Élisée avait prévu. Le troisième exemple que l'on connaît aussi, c'est celui de Rahab, qui a pris le parti de Dieu, qui a pris le parti du peuple de Dieu en Josué 2. Elle a caché les espions, les deux espions, au risque de sa vie, parce que c'est quand même le roi qui a envoyé des personnes pour lui dire « On sait qu'il y a des Israélites chez toi, ils viennent pour repérer les lieux et nous attaquer. » Et elle, en sachant ça, elle a quand même décidé de cacher les espions et d'envoyer les gardes qui étaient venus pour ça dans une autre direction pour les protéger. Elle a vu le besoin, elle a choisi le parti de Dieu. Et par là, elle est actrice du plan de Dieu et par la même occasion, elle obtient le salut pour sa famille. On sait plus tard qu'elle sera épargnée. Et Dieu a utilisé une femme étrangère ayant une vie trouble, parce qu'on dit que c'est une prostituée, en tout cas, elle n'est pas dans le standard attendu par la loi de Moïse, et les espions auraient pu se dire « on ne va pas dormir chez elle, on ne va pas parler avec elle », mais non. Malgré ça, Dieu l'a utilisée, et il l'a choisie pour venir au secours des deux espions et accomplir son plan divin. Et d'ailleurs, son nom est cité dans la généalogie de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait prendre encore. Il y a l'exemple de Joseph en Égypte qui a été bon, qui a aimé son prochain en commençant par ses frères, qui a aimé son prochain quand il allait en Égypte, toutes les étapes qu'on connaît de la vie de Joseph. Il y a eu la servante de Naaman aussi qui a aimé son prochain en 2 Rois 5. Il y a Ruth, il y a Esther. Il y a aussi le garçon aux 5 pains et 2 poissons. Je me suis imaginé la scène. Jésus parle, il y a beaucoup de gens, les gens ont faim. Et cet enfant-là est venu et il a dit, voici le peu que j'ai. Il s'est porté volontaire en disant, je n'ai que ça. Je ne sais pas ce que vous pourrez en faire. De toute évidence, je pense quand même qu'il était conscient que 2 poissons, ça ne pouvait pas nourrir tout le monde, mais il est venu quand même avec ce qu'il avait, avec ses capacités, avec aussi faible soit-il, il est venu. Il y a aussi l'exemple de Lydia en acte 16, qui a aussi été une personne investie dans le royaume de Dieu. Et quand on lit Luc 10, 25 à 37, Jésus termine l'échange avec le docteur de la loi en disant « Va et fais de même ». Comme pour dire un peu « Ok, tu as répondu, tu as bien répondu à la question », parce qu'il lui a répondu effectivement « Aime Dieu et aime ton prochain », globalement. Mais maintenant, « Va et fais de même ». Et moi, je me mettais en parallèle dernièrement avec ce qu'on voit avec Pasteur Michel en étudiant Jacques, qui montre que les œuvres sont la conséquence de notre foi, la manifestation, ce qui est visible aux yeux de tous pour les gens qui sont autour de nous. C'est la manifestation de notre foi. La piété qui vient du cœur de Dieu ne vient pas de la connaissance irréprochable de la parole, mais de l'amour manifesté.